C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Violette.
Bonjour Imran, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Phoenix.
Aujourd'hui, nous allons parler des mathématiques. Comment diffuser la culture mathématique auprès du grand public? Quelles sont les difficultés que rencontrent les collégiens et les lycéens? Et pourquoi y a-t-il des inégalités dans l'exercice des mathématiques?
Nos invités du jour pour en discuter, Emmanuel Faux de la Croix, maître de conférences en mathématiques et membre du LMNO, le laboratoire Nicolas Oresme de l'Université de Caen.
Elle est accompagnée de Ethan et Charles, élèves en 3e. Mais tout de suite, notre flash avec les infos sciences de la semaine.
Demain, à 7h, heure française, la sonde DART de la NASA décollera de la Californie à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Son objectif, foncer droit vers un astéroïde pour modifier sa trajectoire. Non, vous ne rêvez pas, ceci n'est pas de la science-fiction, même si ça ressemble étrangement au scénario du film hollywoodien Armageddon. Dans les faits, l'objectif de la mission de défense planétaire est de tester en conditions réelles la déviation d'un corps, ici de petite taille, qui pourrait menacer la Terre, même si le risque est faible. La sonde DART pour Double Asteroid Redirection Test va voyager pendant 10 mois avant de percuter Dimorphos, un corps de 160 mètres, qui est la petite lune de Didymos, la partie principale de l'astéroïde. C'est une première pour cette mission de défense planétaire américano-européenne. L'Europe semble entrer dans une cinquième vague de contamination due au Covid-19. Partout en Europe, les taux d'incidence sont en augmentation et dépassent les seuils d'alerte. Dans les pays d'Europe de l'Est, la faible couverture vaccinale et le relâchement des gestes barrières seraient à l'origine de ce nouveau rebond épidémique. A ce titre, l'Autriche vit aujourd'hui le deuxième jour de son reconfinement. À raison de 15 000 nouveaux cas par jour et pour éviter l'engorgement dans leurs hôpitaux, le chancelier Alexander Schallenberg a dû durcir les mesures sanitaires qui initialement ciblaient uniquement les personnes ayant refusé de se faire vacciner. En France, le gouvernement invite à la vigilance et au respect des consignes sanitaires. Le masque est de retour pour tous les écoliers et une campagne de rappel vaccinal pour la troisième dose à destination des 50-64 ans devrait débuter en décembre. C'était l'un des sujets de la récente COP26 de Glasgow, la déforestation. Selon les données du système de surveillance de la déforestation PRODES et de l'Institut national de recherche spatiale du Brésil, entre août 2020 et juillet 2021, le déboisement de l'Amazonie s'est étendu sur 13 235 km². Un triste record qui n'avait pas été atteint depuis 2006, où 14 000 km² de forêt tropicale avaient disparu en un an. Depuis l'arrivée au pouvoir du président brésilien Jair Bolsonaro, la déforestation n'a cessé de progresser. Proche des lobbies agricoles et miniers, le chef d'État d'extrême droite avait promis de déprotéger certaines terres indigènes afin de permettre l'extension de l'activité industrielle. Étonnamment, à Glasgow, un texte pour limiter la déforestation a été discuté et signé par le Brésil. Et enfin, hier, s'est ouverte une consultation publique à propos de la construction d'une nouvelle piscine à La Hague dans la Manche. Bien entendu, je ne parle pas là de natation, mais bien de nucléaire. EDF prévoit d'investir 1,25 milliard d'euros dans ce bassin d'une capacité de stockage totale de 6500 tonnes sur le site d'Orano pour le traitement et le stockage des déchets nucléaires. Pour l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, ce projet est vraiment urgent car les piscines déjà existantes pourraient être saturées beaucoup plus rapidement que prévu. Fin 2016, le taux d'espace disponible dans les piscines était de 7,4% selon Orano. À l'extrémité ouest du Cotentin, c'est l'équivalent de 100 cœurs de réacteurs venus de la France entière qui refroidissent à l'heure actuelle.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Selon une étude de TIMSS, le classement international sur l'enseignement des maths et des sciences, en 2020, le niveau des CM1 français en maths est inférieur à la moyenne européenne. Il en est de même pour le niveau des collégiens de classe de 4e. Ce constat questionne donc la diffusion de la culture des mathématiques en France.
Pour tenter de résoudre cette équation, notre invité est en studio avec nous, Emmanuel Faux de la Croix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en mathématiques et membre du LMNO, le laboratoire Nicolas Oresme de l'Université de Caen.
Et vous êtes venu avec Ethan et Charles, bonjour.
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 Et vous êtes élève en 3e au collège. Alors les élèves français semblent de moins en moins doués dans les matières scientifiques. Est-ce que ce constat est irréversible?
Bah, nous l'espérons, non. Effectivement, le constat actuel, c'est une baisse de niveau, sans qu'on puisse véritablement se l'expliquer. Beaucoup d'études sont menées là-dessus. Bon, on peut aussi peut-être se poser la problématique de comment sont faits ces classements, comment sont faites ces études, mais il semblerait quand même que par rapport à nos voisins européens qui ont des fonctionnements quand même éducatifs similaires aux nôtres, on ait un léger souci. Voilà.
Et pourquoi certains élèves font face à des difficultés qui leur semblent insurmontables dans l'apprentissage des mathématiques ?
Bah si on le savait, il n'y aurait plus de difficultés. Hein. Peut-être que des fois, les mathématiques, sans doute, c'est un tort qu'on a en France depuis longtemps de vouloir un peu trop les sacraliser, les montrer de façon trop parfaite, finalement. Cette sacralisation, ça va bien pour certains élèves qui tout de suite sont dans l'abstraction. C'est certainement beaucoup moins profiteur pour d'autres élèves qui ont plus de difficultés à visualiser et à comprendre tout simplement les objets dont on est en train de leur parler quand on fait des mathématiques.
On remarque que certaines inégalités influencent les difficultés d'apprentissage des mathématiques. C'est le cas lorsqu'on parle de zones géographiques. Pourquoi les personnes issues des quartiers populaires ou des zones rurales vont rencontrer plus de difficultés que d'autres élèves ?
Globalement, il y a certainement aussi un manque de projection à quoi ça va servir. Hein. Il est certain que quand on est dans un milieu plus favorisé, où on côtoie des gens dont le métier fait toujours appel à des mathématiques, on côtoie des ingénieurs, on côtoie des personnes du secteur tertiaire, les élèves vont avoir plus l'intérêt d'utiliser des mathématiques. C'est déjà, je pense, un premier pas que quelqu'un qui n'aura pas du tout ça dans ses exemples familiaux et dès qu'il va accrocher un petit peu sur des difficultés, dire bah, de toute façon, ça ne sert à rien. Et c'est peut-être aussi ce que vont lui renvoyer ses parents, son milieu familial.
Et vous répondez quoi à un élève qui vous dit « mais les maths, moi, ça ne me sert à rien, ça va me servir à rien plus tard ?»
Alors, on a énormément d'exemples à lui donner pour lui dire bah, « si, ça te servira forcément. » Et puis, on peut aussi lui dire bah, « même si ça ne te sert pas, tu peux quand même y trouver un intérêt. Hein, » On peut donner plein d'autres exemples où les gens s'intéressent à des domaines qui vont pas être utilisé dans la vie courante, mais tout simplement parce que c'est ludique, parce que c'est plaisant. Et c'est aussi ça qu'on essaye, nous, de faire, c'est de montrer quel peut être l'aspect ludique et plaisant des mathématiques.
Alors, un autre frein à l'apprentissage des mathématiques, c'est le genre. D'après une étude de 2020 du ministère de l'Enseignement supérieur, en 2018-2019, il y avait 27,7% d'étudiantes dans la formation d'ingénieurs et 28,9% d'étudiantes en sciences fondamentales et applications à l'université. Pourquoi est-ce que les filles peinent à se lancer dans des études scientifiques après le bac ?
Il y a certainement là aussi plusieurs facteurs qu'on n'a pas encore tous très bien décrypté, puisque sinon on aurait peut-être aussi une solution pour enrayer ce problème. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui interviennent. Bah, d'une part, c'est la projection dans les métiers correspondants. Hein. C'est malgré tout, une femme va moins facilement se projeter dans un métier d'ingénieur, où elle va se dire qu'elle va être amenée à beaucoup voyager, à s'occuper plus difficilement d'une famille qu'un homme qui ne va pas forcément se poser ces questions-là. L'autre aspect, c'est aussi, sans qu'on puisse se l'expliquer, le manque de confiance en elles des filles. C'est ce qu'on constate souvent dans le secondaire. C'est que finalement, à capacité égale, à résultats égaux, les filles ont nettement moins confiance en elles que les garçons. Est-ce que là, c'est un phénomène de société qui fait qu'on leur renvoie toujours ce manque de confiance ? C'est aussi difficile à décrypter.
Il y a une sorte de pression, on parle de pression qui est mise sur les élèves par rapport aux mathématiques. Vous le voyez, ça ?
Alors, une sorte de pression, oui, parce que les mathématiques sont exigeantes. D'elles-mêmes, les mathématiques sont exigeantes et le système scolaire est lui aussi exigeant et on renvoie quand même aux élèves Le fait qu'ils ne réussissent pas bien, qu'ils vont se tromper, et ça peut inhiber beaucoup, beaucoup d'élèves, et peut-être un peu plus les filles que les garçons.
À titre personnel, qu'est-ce qui vous a motivé à continuer dans la voie des mathématiques ?
Ben c'est mon amour des mathématiques.
Donc c'est possible d'être amoureux des mathématiques ?
Oui, c'est possible.
Et depuis que vous étiez jeune, vous vous êtes dit « je veux devenir maître de conférence en mathématiques » ou est-ce qu'il y a eu une personne qui vous a donné envie ou un déclic ?
En fait, à partir du moment où j'ai pris conscience que ça pouvait se faire, j'ai voulu le faire. Voilà.
Alors, on remarque que certains élèves sont plus à l'aise, par exemple, en français et d'autres sont plus à l'aise dans les mathématiques. Et les difficultés en mathématiques peuvent-elles venir des prédispositions qu'ont les élèves dès l'école primaire ou le collège ?
Il y a certainement des formes d'esprit qui sont plus disposées, prédisposées à étudier les mathématiques que d'autres, comme d'autres formes d'esprit vont être plus disposées à pratiquer des travaux manuels. Évidemment, on n'est pas tous égaux devant nos dispositions. Chacun a ses prédispositions. Donc ça joue aussi, certainement.
Alors on est plutôt dans la fatalité lorsqu'on évoque le genre, les prédispositions ou la zone géographique comme frein à l'étude des mathématiques. Mais est-ce que le problème ne viendrait peut-être pas de l'enseignement qui, parfois, ne serait pas forcément adapté à tous les élèves ? En particulier en primaire où
l'enseignement est vraiment général.
Il est certain qu'il y a des formes de pédagogie différentes où les résultats ne sont pas les mêmes. Après, il faut voir aussi les moyens qui sont mis à disposition des enseignants qui ne peuvent pas forcément pratiquer une pédagogie différenciée pour tous leurs élèves.
Et est-ce que, on va parler un petit peu à Ethan et Charles qui sont avec nous, est-ce que vous rencontrez des difficultés ?
Non, moi je rencontre pas de difficultés en mathématiques, ça va, je me débrouille plutôt bien, j'ai pas un niveau exceptionnel, mais je pense que ça va, je me débrouille bien.
J'ai pas forcément un très bon niveau en mathématiques, c'est surtout que j'aime bien ça et j'aime bien la découverte qu'il y a en mathématiques, et aussi... ça se joue aussi beaucoup sur l'enseignement des mathématiques, sur la personne qui enseigne. Si on a automatiquement un mauvais professeur de mathématiques, on risque malheureusement de moins aimer les maths et donc de ne pas poursuivre des études dans les maths, etc. Et c'est pour ça que des fois les gens continuent de moins en moins les études en mathématiques. Et on le voit aussi d'ailleurs dans les réseaux sociaux ou dans mes classes où le mathématique sont malheureusement beaucoup critiqués et le français, par exemple, ou d'autres matières seront plus mis en avant que les mathématiques.
Et Charles, toi, dans ta classe, est-ce que tu as déjà vu des personnes qui se sentaient inférieures par rapport aux mathématiques ?
Je ne sais pas inférieures, mais je pense qu'il y a des gens qui sont conscients qu'ils ils se sentent pas très forts en mathématiques et peut-être que du coup, ils pensent qu'ils ne vont pas réussir et ils ont une baisse de confiance en eux. Mais je sais pas comment résoudre le problème, mais il faut...
Et dans ta classe, par exemple, il y a de l'entraide. Est-ce que tu vas aller aider tes camarades à essayer, par exemple, de mieux comprendre les mathématiques si toi, t'as pas de difficultés ?
En général, oui. Moi, je suis à côté de quelqu'un qui comprend bien aussi les mathématiques. Mais en général, les binômes, en général, c'est en général quelqu'un qui a des difficultés et quelqu'un qui a plutôt bon niveau. Du coup, il y a de l'entraide quand même dans notre classe.
Est-ce que, Ethan, t'as envie de continuer dans les mathématiques ? Est-ce que t'as envie de faire des études scientifiques plus tard ?
J'ai envie depuis quelques années de faire des études mathématiques. Mon envie n'a toujours pas baissé, même si des fois on peut avoir des mauvaises notes en mathématiques, ce qui fait beaucoup baisser l'envie. J'ai quand même réussi à trouver le moyen de vouloir quand même continuer, et ça dépend aussi après du type de mathématiques, c'est-à-dire qu'il va avoir le calcul littéral et d'autres calculs. Et ça peut aider de savoir qu'il y a des calculs qu'on fera moins que d'autres et qui nous poussent en avant à faire des études mathématiques.
Et Charles, est-ce que tu dirais que tu es un amoureux des mathématiques ? On parlait d'amour des mathématiques tout à l'heure.
Je ne sais pas amoureux des mathématiques, mais en tout cas, c'est ma matière préférée et je l'aime beaucoup.
Et tu souhaites continuer dans ce domaine-là ?
Oui, j'aimerais bien faire des études en mathématiques.
Vous restez avec nous, Emmanuel, Ethan et Charles. On continue la discussion après une pause musicale. Voici « Write a list of things to look forward to » de Courtney Barnett sur Radio Phoenix. «
Vous êtes toujours dans C'est pas faux, c'était Courtney Barnett sur Radio Phoenix. Avant la pause musicale, nous évoquons la baisse du niveau des jeunes français en mathématiques et les problèmes qu'ils pouvaient éventuellement rencontrer lors de l'apprentissage.
Afin de réduire ces inégalités et de favoriser la diffusion des mathématiques auprès du grand public, les équipes du laboratoire de mathématiques de Caen, dont vous faites partie, Emmanuel, ont mis en place un outil qui attire l'œil et l'appétence pour les mathématiques. Cet outil s'appelle le Labozaïque. C'est un projet pédagogique autour du pavage et des transformations de l'espace. Pouvez-vous nous décrire aux auditeurs à quoi ressemble ce Labozaïque ?
Alors, le Labozaïque, c'est un dispositif global formé de plusieurs objets qui vont nous permettre de montrer des aspects ludiques et attractifs des mathématiques. Donc, parmi ces objets, on a en particulier des chambres de miroirs qui sont toujours très impressionnantes, c'est-à-dire qu'en fait, vous regardez dans un assemblage de 3-4 miroirs et puis vous voyez des motifs qui se répètent à l'infini. Alors, déjà, visuellement, c'est souvent très joli. Et puis, ça nous permet aussi, à partir de cet outil attrayant, de commencer à parler un petit peu de petites énigmes, de problèmes de symétrie. Donc ça, c'est un des outils. Il y a un autre outil qui, lui, fait appel au pavage. C'est-à-dire, ce sont des assemblages de pièces. Donc, on va assembler des pièces, voir des motifs qu'on pensait pas être réalisables. Et puis après, on va par derrière se poser les questions. Comment est-ce qu'on a pu les créer? Qu'est-ce qu'on aurait pu créer d'autre? Quelles sont les règles mathématiques qui interviennent derrière? Oui. Donc, notre idée, c'est toujours de partir de choses très concrètes, manipulatoires, pour pouvoir aller se poser des questions sur les mathématiques qui sont derrière.
À destination de qui est le Labozaïque ?
Alors, le Labozaïque, alors on l'a pensé surtout pour un public scolaire, c'est la tranche d'âge qu'on vise le plus, mais en réalité, on peut y intéresser toute personne, de l'élève de primaire au grand public, voire à un public même universitaire qui est familier de ces notions-là et qui les voit sous un autre angle.
Ça veut dire que vous adaptez les activités du Labozaïque en fonction de votre public et que c'est un outil qui permet de faire tout un tas d'activités différentes.
Exactement.
Comment est-ce que l'outil pédagogique devient vulgarisateur des mathématiques au point d'en faire en fait la promotion?
Alors, l'outil pédagogique nous permet, ben, je vous dis, de montrer différentes notions de mathématiques. Et derrière ces notions qu'on montre, après, on va plus loin. On explique dans quel autre domaine elles interviennent. Où est-ce que ça intervient dans la physique? Où est-ce que ça intervient dans la chimie? Voire dans d'autres aspects. Donc, c'est vraiment un tremplin pour aller parler de choses plus compliquées et des endroits où les mathématiques peuvent intervenir.
Alors, ce dispositif, il a été conçu en une quarantaine de petites versions qui sillonnent la France. Pourquoi vous avez choisi de miniaturiser l'objet pour le rendre mobile ?
Alors, on l'a miniaturisé déjà pour des problèmes de coûts de production, puisque la version originale du Labozaïque a été créée grâce au prix financé par la Fondation Musée Schlumberger, donc qui nous a permis vraiment de créer un matériel de qualité, mais qu'on ne peut pas reproduire à grande échelle, à moindre coût. Donc la miniaturisation était déjà une raison de réduire les coûts. Et puis aussi de pouvoir tout simplement avoir une pochette dans son armoire de classe au lieu d'une salle complète dans laquelle dont on a besoin pour ranger le matériel.
Après l'utilisation du Labozaïque, est-ce que l'on remarque que les élèves vont porter plus d'intérêt aux mathématiques ?
Nous, on a assez peu de retours sur ce qui va vraiment se passer après. Ce qu'on constate toujours, c'est pendant nos interventions, on captive les élèves, ils sont toujours très intéressés. Et puis, surtout, il y a le regard de l'enseignant qui nous dit « Ah, mais là, je vois quelque chose de très différent de ce qui se passe d'habitude dans ma classe ». C'est pas forcément les mêmes qui s'y intéressent, et surtout des élèves qui sont d'habitude plutôt en retrait parce qu'ils sont un petit peu en difficulté, vont là s'investir et puis poser des questions et essayer de résoudre les problèmes, alors que dans une séquence de classe classique, ils vont rester complètement en retrait et attendre que ça se passe, attendre qu'on veuille bien leur donner une solution, passer à un autre problème. Donc certains, les enseignants nous disent que forcément ça motive autre chose chez les élèves.
Et quels sont les collèges et les lycées où vous montrez le Labozaïque ?
Ce sont des collèges et lycées normands pour la plupart. On essaye surtout d'aller dans des zones qui ont moins l'accès à tous ces dispositifs, des zones un petit peu loin de Caen. Donc on est quand même allé beaucoup dans la Manche, dans l'Orne. C'est aussi ceux qui sont le plus enclins à nous faire venir. On a paradoxalement peu de demandes de la part d'établissements cannais, qui certainement ont d'autres choses à disposition à montrer à leurs élèves. Ils ont certainement plein de propositions de sorties que n'ont pas les établissements qui sont beaucoup plus éloignés.
Alors on va poser des questions à Ethan et Charles. Est-ce que vous avez eu l'occasion de tester le Labozaïque ?
Alors oui, on l'a testé tout à l'heure. Et avec trois miroirs superposés, et ben, par exemple avec un petit bout de ballon de foot, et ben, on a réussi à en créer un avec un miroir. Et c'est assez incroyable.
Alors qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Alors moi je pense que déjà c'est une bonne méthode de pédagogie, que ce soit déjà pour nous ou pour les élèves de l'université, parce que en fait c'est s'apprendre sans avoir vraiment la notion du temps. C'est-à-dire que nous apprenons, le temps va passer plus vite, et nous apprenons tout en s'amusant, ce qui va tout de suite engager l'élève à vouloir continuer et à vouloir refaire, donc à vouloir poursuivre ses études. Et c'est une méthode de pédagogie qui est et qui doit être plus utilisée, car c'est vraiment une méthode qui va pousser à l'élève à aller plus loin et à ne pas s'ennuyer, par exemple, lors des cours, et à pouvoir toucher les objets et les calculs. Donc, de toute façon, ça va être plus utilisé, j'espère. Et donc, on l'a testé et j'avais clairement envie d'y rester plus longtemps, car c'était même pas pour nous un travail, c'était vraiment de l'amusement.
Et Charles, est-ce que toi, ça a changé ta perception que t'as des mathématiques, d'utiliser le Labozaïque ?
J'aimais déjà beaucoup les mathématiques, mais là encore plus, parce qu'on s'y amuse, comme a dit Ethan, c'est vraiment de l'amusement pur. On trouve beaucoup d'intérêt, on essaye de créer des formes pour que ça donne un côté assez joli et c'est vraiment très bien.
Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Faux de la Croix d'avoir accepté l'invitation de Radio Phoenix et merci aussi à Ethan et à Charles d'être venus.
Eh bien, merci pour l'invitation.
Voici l'agenda scientifique de la semaine.
Nous sommes encore dans le mois de novembre, le mois sans tabac. À cette occasion, le SUAPS vous invite à venir tester votre condition physique sur des tests faciles à la portée de tous, ce jeudi à la Galerie Vitrée du Campus 1 de l'Université. Des étudiants de L2 Sciences pour la Santé seront présents pour vous accueillir et s'assurer de votre bonne santé physique. Ces tests sont gratuits et ouverts à tous les étudiants sur 3 créneaux de 30 minutes à 17h30, 18h et 18h30. Vous pouvez vous inscrire par mail à suaps@unican.fr en précisant le créneau choisi. Jeudi soir à 21h05 sur France 2, le magazine Envoyé Spécial s'intéresse à la famine climatique à Madagascar. Pour se nourrir, les enfants n'ont plus que de la peau de bœuf ou des feuilles de cactus bouillies. Les habitants fuient les campagnes ravagées par la sécheresse et s'entassent dans les villes où 80% des enfants souffrent de dénutrition. Le reportage se déroule dans le sud de l'île où le réchauffement climatique est à la cause et la cause de cette famine. Savoir sur France 2 dès 21h05 ce jeudi. Et enfin ce vendredi 26 novembre de 10h à 17h30, c'est les rencontres France Parkinson à l'amphithéâtre Pierre d'Or à l'université. Au programme de cette journée, des rencontres et des conférences comme les malades de Parkinson en Normandie avec Dominique Beignet, professeur émérite à l'université de Caen et ancien président de l'Observatoire régional de la santé, ou bien présentation de la maladie de Parkinson et de ses traitements avec le docteur Claire Thiriez, neurologue au CHU de Caen, et Christine Joly, patiente ressource en éducation thérapeutique du patient.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux sur la diffusion des maths auprès du grand public. C'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez-nous en podcast sur phoenix.fm. Et à 13h, vous retrouverez Edgar pour la Méridienne.
Merci à Alan qui réalisait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Phoenix.